Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Au fil des pages s'intéresse aujourd'hui à la publication d'un ouvrage édité par le Bureau des Longitudes. Il s'intitule Jean-Baptiste Biot, la météorite de l'aigle. Mais qui était Jean-Baptiste Biot? Pour cela, il faut retourner au 19e siècle. Jean-Baptiste Biot, né en 1774, il fait ses études au collège Louis-le-Grand. Puis à 18 ans, il s'engage comme artilleur dans les armées de la République. Admis à l'école des ponts et chaussées, puis à Polytechnique, il est rapidement nommé en 1797 professeur de mathématiques à l'école centrale de Beauvais. Ami avec le marquis Pierre-Simon de Laplace, astronome et mathématicien, il passe d'ailleurs pour être le Newton français, celui-ci le prend sous son aile et c'est sous l'impulsion de Laplace que Jean-Baptiste Biot est nommé professeur au Collège de France. Nommé astronome adjoint au Bureau des Longitudes en 1806, il fut chargé en compagnie d'Arago de prolonger la méridienne jusqu'aux îles Baléares que Méchain et de l'Ambre avait mesuré de Dunkerque jusqu'à Barcelone. En 1808, il détermine la longueur du pendule de référence de Bordeaux qui bat la seconde. Il travaille sur l'origine des météorites, le magnétisme terrestre, la lumière polarisée, invente le saccharimètre et fonde avec Félix Savard une loi sur les interactions entre aimants et courants. Jean-Baptiste Biot est l'un des rares savants à avoir été membre des trois académies. À 25 ans, il intègre l'Académie des sciences. Il fut d'ailleurs le plus jeune scientifique à intégrer l'Institut. Le début du 19e siècle est également l'époque des campagnes d'Égypte. Elles furent l'occasion d'une exaltante expédition scientifique et culturelle pour notre ami Jean-Baptiste Biot. En effet, alors que Champollion s'entête à décrypter les hiéroglyphes et la pierre de Rosette, il incite le mathématicien et astronome à travailler sur la chronologie de plusieurs monuments. Ainsi, Jean-Baptiste Biot devint égyptologue et entra dans la section de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Enfin, à 82 ans, il entre à l'Académie française. Bien souvent, les grands scientifiques sont de grands écrivains et c'est pourquoi, comme ses prédécesseurs Fontenelle, D'Alembert et Laplace, il siégea à l'Académie française. Mais intéressons-nous à un fait bien particulier quelques années auparavant, en 1803 plus exactement. Le 6 floral de l'an 11, le 26 avril 1803, des pierres tombent du ciel dans les environs de l'Aigle, dans l'Orne. Deux mois plus tard, Jean-Baptiste Biot est chargé par le ministre de l'Intérieur d'enquêter sur cette affaire. Il est vrai qu'à ce moment, ce phénomène paraissait bien mystérieux. Depuis l'Antiquité et jusqu'au XVIIIe siècle, les chutes de météorites étaient considérées comme des prodiges ou des présages. Pour tous, il était impossible que des pierres tombent du ciel. On les appelait pierres de foudre ou pierres de tonnerre, car on les voyait apparaître sous forme de bolides lumineux, avec très souvent un nuage noir. Et puis il y avait les hésitations des académiciens qui ne voulaient pas s'occuper publiquement de cette affaire, de peur de compromettre leur dignité. Le 18 juillet 1803, il remet ses conclusions à l'ensemble de l'Institut. Il met un point final à toutes les superstitions sur les origines prétendues extraterrestres des météorites. Jean-Baptiste Biot prouve que les météorites tombent bien du ciel. Nous vous proposons d'écouter le rapport qu'il a lu à l'Académie des sciences, un véritable travail d'enquête où l'on apprend autant sur les hommes que sur les météorites, de par son souci de description. La lecture est faite par le comédien Fernand Guillot. Le texte est tiré de l'ouvrage Jean-Baptiste Biot, la météorite de l'aigle, dans lequel figure également la préface des trois secrétaires perpétuels des académies dont il fait partie, l'Académie des sciences, l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'Académie française. Écoutons sans plus tarder ce rapport, suite à sa visite d'une quinzaine de villages aux alentours du point d'impact avec les météorites.
Le ministre de l'Intérieur m'ayant invité à me rendre dans le département de l'Orne pour prendre des renseignements exacts sur le météore qui a paru aux environs de l'Aigle le 6 floréal dernier, je me suis empressé de remplir ses intentions et je vais rendre compte à la classe des observations que j'ai recueillies. Je désire que l'importance du sujet fasse excuser la multiplicité des détails dans lesquels je vais entrer. Je partis de Paris le 7 Messidor, emportant avec moi une boussole, une carte de Cassini et un échantillon de la pierre météorique de Barbotan qui avait été remis sur les lieux à notre confrère Cuvier. Je me proposais de m'en servir comme terme de comparaison et de voir quelle origine lui assigneraient les habitants du canton où l'on disait qu'il en était tombé de semblable. Je me rendis d'abord à Alençon, chef-lieu du département de l'Orne, situé à 15 lieues au sud-ouest de la ville de L'Aigle. À Alençon, on avait entendu parler vaguement de ce phénomène, mais on n'avait rien vu, et aucun bruit extraordinaire ne s'était fait remarquer, ce qui n'est pas étonnant dans une grande ville au milieu du tumulte d'un jour de marché. Le préfet, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, les professeurs de l'école centrale n'avaient aucune connaissance du météore. Mais si ces citoyens ne purent pas me donner des renseignements directs sur cet objet, ils m'en fournirent d'autres non moins utiles. Le bibliothécaire de l'école centrale, jeune homme plein de talent et d'activité, voulut bien aussi, sur ma demande, prendre quelques informations relativement au météore de l'Aigle. Il ne put recueillir que de simples récits transmis de bouche en bouche, mais qui cependant s'accordaient entre eux et avec ce que nous savions déjà. N'ayant plus rien à espérer pour l'objet de ma mission, je quittai Alençon le 10 Messidor et me mis en route pour l'Aigle avec un guide actif et intelligent. Je me proposai de m'arrêter dans tous les endroits où je pourrais espérer des réponses à mes questions. J'avais même le dessein de m'écarter vers les habitations que j'apercevais à quelque distance de la route. Le premier endroit habité que nous rencontrâmes est Sèze, petite ville à 10 lieues au sud-ouest de l'Aigle. On y avait entendu le bruit du météore et on indiquait précisément le jour, l'heure et les diverses circonstances. C'était comme un coup de tonnerre très fort qui semblait partir du côté du nord et dont le roulement, accompagné de plusieurs explosions successives, dura 5 ou 6 minutes. Des personnes qui se trouvaient alors sur le cours crurent d'abord que c'était le bruit d'une voiture roulant sur le pavé et venant d'Argentan ou du bourg de Merlerot. Elles ne furent désabusées qu'en ne voyant rien arriver, quoique le bruit continuât. Ces personnes furent d'autant plus étonnées que le ciel était parfaitement serein, sans le moindre nuage, et qu'on n'y remarquait rien d'extraordinaire. On disait de plus que des voyageurs venant de Falaise et de Caen avaient entendu fortement la même explosion, et qu'ils avaient eu grand peur. On ajoutait qu'il avait paru un globe de feu du côté de Falaise, et qu'on avait remis au sous-préfet d'Argentan une pierre qui était tombée du ciel. Ces informations me donnaient lieu de penser que les effets du météore s'étaient étendus sur un espace beaucoup plus considérable que nous ne l'avions imaginé. Nous nous arrêtâmes à Nonant, village situé à 8 lieues ouest-sud-ouest de l'Aigle. Les habitants ont très distinctement entendu l'explosion du météore. Elle les a fort épouvantés. Il la compare au bruit d'une voiture roulant sur le pavé ou à celui d'un feu violent dans une cheminée. Des employés aux barrières, qui étaient couchés sur le bord de la route, se relevèrent tout effrayés. Ils ne virent rien dans l'air qui était serein. Il n'est point tombé de pierre dans cet endroit. De Nonant, nous allâmes au bourg de Merlerot. Chemin faisant, nous rencontrâmes des bergers qui étaient dans la campagne. Je les interrogeai en leur demandant s'ils n'avaient pas bien eu peur d'un bruit extraordinaire qui s'était fait entendre il y avait environ 2 mois. Ils me répondirent affirmativement, m'indiquèrent exactement le jour, l'heure et la direction du bruit. Ils avaient été également surpris de voir le ciel serein. D'autres paysans que j'interrogeai sur la route me firent les mêmes rapports. Au bourg de Merlerot, à 7 lieues ouest-sud-ouest de l'Aigle, je recueillis les mêmes récits. Mais le bruit de l'explosion et la frayeur qu'elle avait produite s'étaient accrus en raison de la proximité. Des hommes, des femmes, des enfants que j'interrogeais s'accordèrent exactement pour le jour, l'heure et la direction du météore. Ils n'avaient rien vu dans l'air et le ciel était serein. Des chevaux qui étaient dans une cour, revenant des champs et encore attelés, sautèrent tout effrayés par-dessus une haie et s'enfuirent dans la rue. Tant était grande la force de l'explosion, quoiqu'à une distance de plus de 7 lieues. Il n'était point tombé de pierre dans ce bourg, mais on avait entendu dire qu'il en était tombé du côté de l'Aigle, et on me donna un échantillon d'une de ces pierres qui avait été apportée comme une curiosité par un roulier. C'était en effet un morceau pareil à ceux que l'on nous avait envoyés. De Merleroux, nous allâmes à Sainte-Gauburge. Sur la route, j'interrogeai une foule de paysans, tant passagers que travaillant aux champs. Hommes, femmes, enfants, tous ont entendu l'explosion le même jour et la rapportent à la même heure, un mardi, entre midi et 2 heures. Dans le village de Sainte-Gauburge, à 4 lieues ouest-sud-ouest de l'Aigle, les habitants ont tous entendu l'explosion le même jour et à peu près à la même heure que partout ailleurs. Mais il n'est point tombé de pierre météorite dans cet endroit. Cependant, on avait entendu parler de celle qui était tombée près de l'Aigle et plusieurs habitants du lieu en possédaient des échantillons. On me conduisit à une chaumière, hors du village, où je trouvai un paysan des environs qui en avait une entre les mains. Je lui montrai d'abord celle de Barbotan. Il la reconnut aussitôt pour être tombée du ciel. Il me montra ensuite celle qu'il avait. Elle était en tout semblable aux nôtres et pouvait peser environ 1 livre. C'était sa femme qui l'avait ramassée devant sa porte, où elle était tombée et s'était enfoncée en terre. La pierre portait encore des traces de cette chute, et le paysan me les fit remarquer. Il paraissait tenir à cette curiosité, je ne la lui demandais point cependant. Il me dit qu'il était du village de Saint-Sommer, et j'ai reconnu depuis que c'est le canton où il en est tombé le plus. Il dînait avec ses frères et sœurs sous un noyer qu'il me montra. Tout à coup, ils entendirent au-dessus de leur tête un bruit de tonnerre épouvantable. J'ai examiné avec notre confrère Leblond le trou d'où cette masse a été tirée. Il est situé à l'entrée d'un herbage humide et dont le sol ne referme assurément à rien de semblable parmi ses produits naturels. Observons encore une circonstance très importante. Cette masse minérale n'avait pas alors l'excessive dureté que nous lui trouvons aujourd'hui. En effet, notre confrère Leblond assure que lorsqu'elle fut portée chez lui, elle était encore très facile à casser, et les petits morceaux que l'on en séparait s'égrenaient sous les doigts. Voilà assurément un fait attesté par un témoin oculaire digne de toute confiance. La même chose m'a été affirmée depuis dans 20 endroits différents et par tous ceux qui ont manié ces substances dans les premiers moments. Or, un passage aussi prompt d'un état friable à une solidité complète annonce la présence d'une cause qui avait récemment troublé leur agrégation. Cela s'accorde donc avec les témoignages pour prouver que ces masses minérales sont étrangères au lieu où elles se trouvaient alors et qu'elles y avaient été nouvellement transportées. Tout le monde s'accorde à dire que ces pierres fumaient sur la place où elles venaient de tomber. Portées dans les maisons, elles exhalaient une odeur de soufre si désagréable qu'on fut obligé de les mettre dehors. Un gros morceau que je brisai m'offrit encore très fortement cette odeur, mais dans son intérieur seulement. Dans les premiers jours, ces pierres se cassaient très facilement. Toutes ont depuis acquis la dureté que nous leur connaissons. Ces changements d'état sont autant de preuves physiques qui s'accordent pour faire voir que ces pierres sont étrangères au lieu où elles se trouvaient alors ou qu'elles y avaient été récemment transportées. Remarquons que les témoignages acquièrent ici une grande force par l'état et les qualités morales des témoins. C'est d'abord une dame très respectable qui ne peut avoir aucun intérêt d'en imposer. Ce sont 2 ecclésiastiques qui ne peuvent, sans aucun motif, avoir l'intention d'altérer la vérité, surtout devant des personnes dont l'estime et la confiance leur sont nécessaires. Enfin, c'est une femme âgée qui paraît depuis longtemps très attachée à cette maison et qui, persuadée que ce phénomène est un avertissement du ciel, n'aurait pas osé en dénaturer les circonstances, surtout en parlant devant des personnes qu'elle est habituée à respecter. Enfin, le témoignage du garde forestier est lui-même un garant de la vérité des autres, car je savais que cet homme n'avait pas été présent à la chute des pierres et il ne s'est pas donné non plus comme les ayant vus tomber. Seulement, son emploi l'obligeant à parcourir les champs, il avait eu occasion de remarquer et de déterrer plusieurs de ces masses qu'il me donna et dont il me montra les trous encore récents. Il était bien certain de n'avoir jamais rien vu de semblable, et on sait combien les gens de cet état sont observateurs. D'après la course que je venais de faire et les renseignements qu'elle m'avait procurés, je connaissais les limites de l'explosion au sud, à l'est et au nord. Il ne me restait plus à parcourir que le côté de l'ouest. Et en conséquence, lorsque je partis de Glos, qui est au nord-est de l'Aigle, je me dirigeai vers le sud-ouest. J'allai d'abord au hameau de la Barne, dans l'habitation qui porte ce nom. Les personnes qui l'habitent avaient entendu le bruit du météore et en avaient été fortement effrayées. Mais se trouvant alors dans leur maison, elles n'avaient pas vu de pierre tomber et ne furent pas avertis de ce phénomène, sinon par leurs fermiers qui en apportèrent des morceaux qu'on venait de trouver dans la cour. J'en reçus un échantillon. J'allai au hameau de Bois-la-Ville, et je me présentai dans l'habitation qui porte ce nom. Le propriétaire à qui je m'adressais est un jeune homme de 28 à 30 ans, qui paraît instruit et bien né. Je rentrai à l'Aigle, à 10 heures du soir, apportant avec moi tous les échantillons que l'on m'avait donnés, ainsi que les notes qui les accompagnaient, et que j'avais prises sur les lieux. Le lendemain, je m'occupais à les mettre en ordre. Quoique ces renseignements me parussent suffire pour établir la réalité du phénomène, je ne négligeais rien pendant mon séjour à l'Aigle pour les compléter, et je cherchais avec une égale bonne foi tout ce qui pouvait les confirmer et ou les combattre. Mais sous ce dernier rapport, je ne trouvais aucune objection plausible, surtout pas une seule observation, pas un seul récit fait sur les lieux qui contredit les résultats de mes informations. Cependant, je voulus employer encore un dernier moyen pour les vérifier. C'est un usage parmi les paysans des environs de se rassembler le dimanche matin sur la place de l'Aigle. J'allai un de ces jours au milieu d'eux, je les interrogeai, et d'après les récits qu'ils faisaient sur le météore, je pus constamment déterminer le canton qu'ils habitaient, car ceux qui avaient vu tomber des pierres étaient en deçà des limites que j'avais parcourues, et ceux qui n'en avaient pas vu tomber étaient en dehors. Il n'y eut point d'exception à cette règle. J'en conclus que j'avais bien circonscrit l'étendue sur laquelle le météore avait éclaté. Les fonderies, les usines, les mines des environs que j'ai visitées n'ont rien dans leurs produits, ni dans leurs scories, qui ait avec ces substances le moindre rapport. On ne voit dans le pays aucune trace de volcan. Les plus grosses de ces pierres, lorsqu'on les casse, exhalent encore une odeur sulfureuse très forte dans leur intérieur. Celle de leur surface a disparu, et les plus petites n'en exhalent plus qui soient sensibles, en sorte que l'odeur exhalée par les plus grosses paraît aussi de nature à disparaître avec le temps. Ce sont là autant de preuves physiques qui attestent que les pierres météoriques des environs de l'Aigle sont étrangères au lieu où elles avaient été trouvées, qu'elles y ont été transportées récemment depuis l'époque de l'explosion et par une cause qui a modifié les principes qu'elles renferment. Maintenant, si l'on consulte les témoignages moraux, que trouve-t-on ? 20 hameaux dispersés sur une étendue de plus de 2 lieues carrées, dont presque tous les habitants se donnent pour témoins oculaires et attestent qu'une épouvantable pluie de pierres a été lancée par le météore. Dans le nombre se trouvent des hommes faits, des femmes, des enfants, des vieillards. Ce sont des paysans simples et grossiers qui demeurent à une grande distance des uns des autres, des laboureurs pleins de sens et de raison, des ecclésiastiques respectables, des jeunes gens qui, ayant été militaires, sont à l'abri des illusions de la peur. Toutes ces personnes, de profession, de mœurs, d'opinions si différentes, n'ayant que peu ou point de relations entre elles, sont tout à coup d'accord pour attester un même fait qu'elles n'ont aucun intérêt à supposer. elle le rapporte toutes au même jour, à la même heure, au même instant, avec les mêmes circonstances, avec les mêmes comparaisons. Et ce fait, si universellement, si fortement attesté, n'est qu'une conséquence des preuves physiques rassemblées précédemment, c'est qu'il est tombé dans le pays des pierres d'une nature particulière à la suite de l'explosion du 6 Floréal. Bien plus, on montre encore des traces, des débris, qui attestent matériellement la chute de ces masses dont on ne parle qu'avec effroi. On dit les avoir vues descendre le long des toits, casser des branches d'arbres, rejaillir en tombant sur le pavé. On dit qu'on a vu la terre fumer autour des plus grosses et qu'on les a tenues brûlantes dans les mains. Ces récits ne se font, ces traces ne se montrent, que dans une étendue de terrain déterminée. C'est là seulement qu'il est possible de trouver encore quelques pierres météoriques. On n'en connaît pas un seul morceau qui n'ait été trouvé sur le terrain hors de cet arrondissement, et il n'y a pas un seul témoin qui prétende avoir vu tomber des pierres ailleurs. Enfin, une troisième espèce de preuve résulte de certaines particularités physiques unanimement racontées par les habitants du pays qui sont trop peu éclairés pour en avoir prévu les conséquences. Je veux parler des changements successifs observés dans la dureté de ces pierres et dans l'odeur qu'elles exhalent. Changements qui, au rapport des témoins, parmi lesquels il faut compter notre confrère Leblon, se sont opérés dans l'espace de quelques jours après l'explosion du météore. Changements dont j'ai moi-même observé très sensiblement les traces en cassant des morceaux de dimensions différentes. Et ce nouveau rapprochement des témoignages et des faits ne sert qu'à montrer entre eux un nouvel accord. Ainsi, toutes les preuves, soit physique, soit moral, qu'il a été possible de recueillir, se concentre et converge pour ainsi dire vers un point unique, si l'on considère la manière dont nous avons été conduits par la comparaison des témoignages au lieu de l'explosion, le nombre des renseignements pris sur les lieux et le raccord avec ceux qui avaient été recueillis à 10 lieues de là. La multitude des témoins, leur caractère moral, la ressemblance de leurs récits et leur coïncidence parfaite, de quelque part qu'ils soient venus, sans qu'il ait été possible de découvrir à cet égard une seule exception, on en conclura sans le moindre doute que le fait sur lequel ces preuves se réunissent est réellement arrivé et qu'il est tombé des pierres aux environs de l'Aigle le 6 Floréal en 11. Alors, l'ensemble des témoignages donnera de ce phénomène la description suivante. Le mardi 6 Floréal en 11, vers 1h après-midi, le temps étant serein, on aperçut de Caen, de Ponto de Mer et des environs d'Alençon, de Falaise et de Verneuil, un globe enflammé, d'un éclat très brillant, et qui se mouvait dans l'atmosphère avec beaucoup de rapidité. Quelques instants après, on entendit à l'Aigle et autour de cette ville, dans un arrondissement de plus de 30 lieues de rayon, une explosion violente qui dura 5 ou 6 minutes. Ce furent d'abord 3 ou 4 coups semblables à des coups de canon, suivis d'une espèce de décharge qui ressemblait à une fusillade. Après quoi, on entendit comme un épouvantable roulement de tambour. L'air était tranquille et le ciel serein, à l'exception de quelques nuages comme on en voit fréquemment. Ce bruit partait d'un petit nuage qui avait la forme d'un rectangle et dont le plus grand côté était dirigé est-sud-ouest. Il parut immobile pendant tout le temps que dura le phénomène. Seulement, les vapeurs qui le composaient s'écartaient momentanément de différents côtés par l'effet des explosions successives. Ce nuage se trouva à peu près à une demi-lieue au nord, nord-ouest de la ville de l'Aigle. Il était très élevé dans l'atmosphère, car les habitants de la Vassolerie et de Bois-la-Ville, hameaux situés à plus d'une lieue de distance l'un de l'autre, l'observèrent en même temps au-dessus de leur tête. La plus grosse de toutes ces pierres que l'on a trouvées pesait 8,5 kg, 17,5 livres. Au moment où elle tomba, la plus petite que j'ai vue et que j'ai rapportée avec moi ne pèse que 7 ou 8 grammes. Cette dernière est donc environ 1000 fois plus petite que la précédente. Le nombre de toutes celles qui sont tombées peut être évalué à 2 ou 3 000. Les échantillons de pierres météoriques, dont il a été question dans son mémoire, sont déposés au Muséum d'histoire naturelle. Le citoyen Thénard a bien voulu en analyser quelques-uns. Et il a trouvé silice 46, fer oxydé 45, magnésie 10, nickel 2, soufre environ 5, soit 108 en tout. D'où il faut retrancher la quantité d'oxygène qui s'est unie au métal pendant l'opération. Les divers morceaux que l'on a essayés comparativement n'ont point offert de différences appréciables, quoique choisis parmi ceux que leur aspect ou le lieu de leur chute semblait devoir distinguer le plus des uns des autres. On voit par cette analyse que les pierres tombées aux environs de l'Aigle sont composées des mêmes principes que les masses météoriques jusqu'à présent connues. Elles contiennent seulement un peu moins de magnésie et un peu plus de fer. Ces résultats sont tout à fait d'accord avec ceux que le citoyen Vauquelin avait déjà obtenus en analysant les premiers échantillons envoyés de l'Aigle au citoyen Fourcroix. Au reste, quelle que soit l'origine de ces pierres, on ne doit pas s'étonner de trouver quelques différences dans les rapports des substances qui les composent, puisqu'elles sont unies par une simple agrégation et non par une combinaison intime. Je me suis bordé dans cette relation à un simple exposé des faits. J'ai tâché de les voir comme tout autre les aurait vus, et j'ai mis tous mes soins à les présenter avec exactitude. Je laisse à la sagacité des physiciens les nombreuses conséquences que l'on peut en déduire, et je m'estimerai heureux s'ils trouvent que j'ai réussi à mettre hors de doute un des plus étonnants phénomènes que les hommes aient jamais observé.
Vous venez de revivre le discours de Jean-Baptiste Biot sur l'origine des météorites grâce à notre comédien Fernand Guillot. Ce rapport fut prononcé devant les membres de l'Académie des sciences en juillet 1803 et ses conclusions mirent fin à toutes les hypothèses les plus folles concernant l'origine de ces drôles de pierres tombées du ciel. Retrouvez l'ouvrage Jean-Baptiste Biot, La météorite de l'Aigle, édité par le Bureau des Longitudes au prix de 8 euros. L'ouvrage n'est pas disponible en librairie, mais vous pouvez vous le procurer au bureau des archives de l'Académie des sciences. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.